L'adolescent, chapitre 2. Sabine. Dans une aile de la maison, de l'autre côté de la cour, logeait au rez-de-chaussée une jeune femme de 20 ans, veuve depuis quelques mois, avec une petite fille. Madame Sabine Fröhlich était aussi locataire du vieux Euler. Elle occupait la boutique qui donnait sur la rue, et elle avait de plus deux chambres sur la cour, avec jouissance d'un petit carré de jardin, séparé de celui des Euler par une simple clôture de fer, où s'enroulait du lierre. On l'y voyait rarement. L'enfant s'y amusait seul, du matin au soir, à tripoter la terre. Et le jardin poussait comme il voulait, au grand mécontentement du vieux Justus, qui aimait les allées ratissées et le bel ordre dans la nature. Il avait essayé de faire à sa locataire quelques observations à ce sujet, mais c'était probablement pour cela qu'elle ne se montrait plus, et le jardin n'en allait pas mieux. Madame Fröhlich tenait une petite mercerie qui aurait pu être assez achalandée grâce à la situation dans une rue commerçante au cœur de la ville, mais elle ne s'en occupait pas beaucoup plus que du jardin. Au lieu de faire son ménage elle-même, comme il convenait, selon Madame Fogel, à une femme qui se respecte, surtout quand elle n'est pas dans une situation de fortune qui permette, sinon excuse l'oisiveté, elle avait pris une petite servante, une fille de 15 ans, qui venait quelques heures le matin pour faire les chambres et garder le magasin, pendant que la jeune femme s'attardait paresseusement dans son lit ou à sa toilette. Christophe l'apercevait parfois à travers ses carreaux, circulant dans sa chambre, pieds nus, en sa longue chemise, ou assise pendant des heures en face de son miroir. Car elle était si insouciante qu'elle oubliait de fermer ses rideaux, et quand elle s'en apercevait, elle était si indolente qu'elle ne prenait pas la peine d'aller les baisser. Christophe, pudique, s'écartait de la fenêtre pour ne pas la gêner. Mais la tentation était forte. En rougissant un peu, il jetait un regard de côté sur les bras nus, un peu maigres, languissamment levés autour des cheveux défaits, les mains jointes derrière la nuque, s'oubliant dans cette pose jusqu'à ce qu'ils fussent engourdis et qu'elle le laissa retomber. Christophe se persuadait que c'était par mégarde qu'il voyait en passant cet agréable spectacle, et qu'il n'en était pas troublé dans ses méditations musicales. Mais il y prenait goût, et il finit par perdre autant de temps à regarder Madame Sabine qu'elle en perdait à faire sa toilette. Non pas qu'elle fût coquette, elle était plutôt négligée à l'ordinaire, et n'apportait pas à sa mise le soin méticuleux qui mettait Amalia ou Rosa. Si elle s'éternisait devant son miroir, c'était pure paresse. À chaque épingle qu'elle enfonçait, il lui fallait se reposer de ce grand effort en se faisant dans la glace de petites mines dolentes. Elle n'était pas encore tout à fait habillée à la fin de la journée. Souvent, la bonne sortait avant que Sabine fût prête, et un client sonnait à la porte du magasin. Elle le laissait sonner et appelait une ou deux fois avant de se décider à se lever de sa chaise. Elle arrivait, souriante, sans se presser, cherchait l'article qu'on lui demandait, et si elle ne le trouvait pas après quelques recherches, ou même, cela arrivait, s'il fallait pour l'atteindre se donner trop de peine, transporter par exemple l'échelle d'un bout de la pièce à l'autre, elle disait tranquillement qu'elle n'avait plus l'objet. Et comme elle ne s'inquiétait pas de mettre un peu d'ordre chez elle, ou de renouveler les articles qui manquaient, les clients se lassaient ou s'adressaient ailleurs. Sans rancune, du reste. Le moyen de se fâcher avec cette aimable personne, qui parlait d'une voix douce et ne s'émouvait de rien. Tout ce qu'on pouvait lui dire lui était indifférent. Et on le sentait si bien que ceux qui commençaient à se plaindre n'avaient pas le courage de continuer. Il partait, répondant par un sourire à son charmant sourire, mais il ne revenait plus. Elle ne s'en troublait point, elle souriait toujours. Elle semblait une jeune figure florentine, les sourcils levés, bien dessinés, les yeux gris à demi ouverts, sous le rideau des cils, la paupière inférieure un peu gonflée, avec un léger pli creusé dessous. Le mignon petit nez se relevait vers le bout par une courbe légère. Une autre petite courbe le séparait de la lèvre supérieure, qui se retroussait au-dessus de la bouche entr'ouverte, avec une moue de lassitude souriante. La lèvre inférieure était un peu grosse, le bas de la figure rond, avec le sérieux enfantin des vierges de Filippo Lippi. Le teint était un peu brouillé, les cheveux bruns clairs, des boucles en désordre et un chignon à la diable. Elle avait un corps menu, aux os délicats, au mouvement paresseux. Mise sans beaucoup de soin, une jaquette qui bâillait, des boutons qui manquaient, de vilains souliers usés, l'air un peu souillonnette, elle charmait par sa grâce juvénile, sa douceur, sa chatterie instinctive. Quand elle venait prendre l'air à la porte de la boutique, les jeunes gens qui passaient la regardaient avec plaisir. Et bien qu'elle ne se souciât pas d'eux, elle ne manquait pas de le remarquer. Son regard prenait alors cette expression reconnaissante et joyeuse qu'ont les yeux de toute femme qui se sent regardée avec sympathie. Il semblait dire « Merci, encore, encore, regardez-moi ». Mais quelque plaisir qu'elle eût à plaire, jamais sa nonchalance n'eût fait le moindre effort pour plaire. Elle était un objet de scandale pour les Eulervogel. Tout en elle les blessait, son indolence, le désordre de sa maison, la négligence de sa toilette, son indifférence polie à leurs observations, son éternel sourire, la sérénité impertinente avec laquelle elle avait accepté la mort de son mari, les indispositions de son enfant, ses mauvaises affaires, les ennuis gros et menus de la vie quotidienne, sans que rien changeât rien à ses chères habitudes, à ses flâneries éternelles, tout en elle les blessait. Et le pire de tout, qu'ainsi faite, elle plaisait. Madame Fogel ne pouvait le lui pardonner. On eût dit que Sabine le fit exprès pour infliger par sa conduite un démenti ironique aux fortes traditions, aux vrais principes, aux devoirs insipides, au travail sans plaisir, à l'agitation, au bruit, aux querelles, aux lamentations, au pessimisme sain qui était la raison d'être de la famille Euler, comme de tous les honnêtes gens, et faisait de leur vie un purgatoire anticipé. Qu'une femme qui ne faisait rien et se donnait du bon temps toute la sainte journée se permit de les narguer de son calme insolent, tandis qu'ils se tuaient à la peine comme des galériens, et que par-dessus le marché le monde lui donna raison, cela passait les bornes. C'était à décourager d'être honnête. Heureusement, Dieu merci, il y avait encore quelques gens de bon sens sur terre. Madame Fogel se consolait avec eux. On échangeait les observations du jour sur la petite veuve qu'on épiait à travers les persiennes. Ces commérages faisaient la joie de la famille, le soir, quand on était réunis à table. Christophe écoutait, d'une oreille distraite. Il était si habitué à entendre les Fogel se faire les censeurs de la conduite de leurs voisins qu'il n'y prêtait plus aucune attention. D'ailleurs, il ne connaissait encore de Madame Sabine que sa nuque et ses bras nus, qui, bien qu'assez plaisants, ne lui permettait pas de se faire une opinion définitive sur sa personne. Il se sentait pourtant plein d'indulgence pour elle, et par esprit de contradiction, il lui savait gré surtout de ne point plaire à Madame Fogel. Le soir après dîner, quand il faisait très chaud, on ne pouvait rester dans la cour étouffante où le soleil donnait tout l'après-midi. Le seul endroit de la maison où l'on respira un peu était le côté de la rue. Euler et son gendre allaient quelquefois s'asseoir sur le pas de leur porte avec Louisa. Madame Fogel et Rosa n'apparaissaient qu'un instant. Elles étaient retenues par les soins du ménage. Madame Fogel mettait son amour-propre à bien montrer qu'elle n'avait pas le temps de flâner. Et elle disait, assez haut pour qu'on l'entendît, que tous ces gens qui étaient là, à bâiller sur leur porte, sans faire œuvre de leurs dix doigts, lui donnaient sur les nerfs. Ne pouvant, elle le regrettait, les forcer à s'occuper, elle prenait le parti de ne pas les voir, et elle rentrait travailler rageusement. Rosa se croyait obligée de l'imiter. Euler et Fogel trouvaient des courants d'air partout. Ils craignaient de se refroidir et remontaient chez eux. Ils se couchaient fort tôt et n'auraient, pour un empire, changé la moindre chose à leurs habitudes. À partir de 9 heures, il ne restait plus que Louisa et Christophe. Louisa passait ses journées dans sa chambre. Et le soir, Christophe s'obligeait, quand il le pouvait, à lui tenir compagnie pour la forcer à prendre un peu l'air. Seule, elle ne fut point sortie. Le bruit de la rue l'effarait. Les enfants se poursuivaient avec des cris aigus. Tous les chiens du quartier y répondaient avec leurs aboiements. On entendait les sons de piano, une clarinette un peu plus loin, et dans une rue voisine, un cornet à piston. Des voix s'interpellaient. Les gens allaient et venaient par groupes devant leur maison. Louisa se serait crue perdue si on l'eût laissée seule au milieu de ce tohu-bohu. Mais auprès de son fils, elle y trouvait presque plaisir. Le bruit s'apaisait graduellement. Les enfants et les chiens se couchaient les premiers. Les groupes s'égrenaient. L'air devenait plus pur. Le silence descendait. Louisa racontait de sa voix fluette les petites nouvelles que lui avait apprises Amalia ou Rosa. Elle n'y trouvait pas un très grand intérêt, mais elle ne savait de quoi causer avec son fils, et elle éprouvait le besoin de se rapprocher de lui, de dire quelque chose. Christophe, qui le sentait, feignait de s'intéresser à ce qu'elle racontait, mais il n'écoutait pas. Il s'engourdissait vaguement et repassait les événements de sa journée. Un soir qu'ils étaient ainsi, pendant que sa mère parlait, il vit s'ouvrir la porte de la mercerie voisine. Une forme féminine sortit silencieusement et s'assit dans la rue. Quelques pas séparaient sa chaise de Louisa. Elle s'était placée dans l'ombre la plus épaisse. Christophe ne pouvait voir son visage, mais il la reconnaissait. Sa torpeur s'effaça. L'air lui parut plus doux. Louisa ne s'était pas aperçue de la présence de Sabine et continuait à mi-voix son tranquille bavardage. Christophe l'écoutait mieux et il éprouvait le besoin d'y mêler ses réflexions, de parler, d'être entendu peut-être. La mince silhouette demeurait sans bouger, un peu affaissée, les jambes légèrement croisées, les mains l'une sur l'autre posées à plat sur ses genoux. Elle regardait devant elle, elle ne semblait rien entendre. Louisa s'assoupissait. Elle rentra. Christophe dit qu'il voulait rester encore un peu. Il était près de 10 heures. La rue s'était vidée. Les derniers voisins rentraient l'un après l'autre. On entendait le bruit des boutiques qui se fermaient. Les vitres éclairées clignaient de l'œil, s'éteignaient. Une ou deux s'attardaient encore. Elles moururent. Silence. Ils étaient seuls. Ils ne se regardaient pas. Ils retenaient leur souffle. Ils semblaient ignorer qu'ils étaient l'un près de l'autre. Des champs lointains venaient le parfum des prairies fauchées et, d'un balcon voisin, l'odeur d'un pot de giroflée. L'air était immobile. La voie lactée coulait. Au-dessus d'une cheminée, le chariot de David inclinait ses essieux. Dans le pâle ciel vert, ses étoiles fleurissaient comme des marguerites. À l'église de la paroisse, 11 heures sonnèrent, répétées tout autour par les autres églises, aux voix claires ou rouillées, et dans l'intérieur des maisons, par les timbres assourdis des pendules ou par les coucous enroués. Ils s'éveillèrent de leur songerie et se levèrent en même temps. Et comme ils allaient rentrer, chacun de son côté, tous deux se saluèrent de la tête sans parler. Christophe remonta dans sa chambre. Il alluma sa bougie, s'assit devant sa table, la tête dans ses mains, et resta longtemps sans penser. Puis il soupira et se coucha. Le lendemain, en se levant, il s'approcha machinalement de la fenêtre et regarda du côté de la chambre de Sabine. Mais les rideaux étaient clos. Ils le furent toute la matinée. Ils le furent toujours depuis. Christophe proposa à sa mère, le soir suivant, d'aller de nouveau s'asseoir devant la porte de la maison. Il en prit l'habitude. Louisa s'en réjouit. Elle s'inquiétait de le voir s'enfermer dans sa chambre, aussitôt après dîner, fenêtre close, volet clos. La petite ombre muette ne manqua pas non plus de revenir s'asseoir à sa place accoutumée. Il se saluait d'un rapide signe de tête, sans que Louisa s'en aperçût. Christophe causait avec sa mère. Sabine souriait à sa petite fille, qui jouait dans la rue. Vers 9 heures, elle allait la coucher, puis revenait sans bruit. Quand elle tardait un peu, Christophe commençait à craindre qu'elle ne revînt plus. Il guettait les bruits de la maison, les rires de la fillette qui ne voulait pas dormir. Il distinguait le frôlement de la robe de Sabine avant qu'elle eût paru sur le seuil de la boutique. Alors il détournait les yeux et parlait à sa mère d'une voix plus animée. Il avait le sentiment parfois que Sabine le regardait. Il jetait de son côté des regards furtifs, mais jamais leurs yeux ne se rencontraient. L'enfant servit de lien entre eux. Elle courait dans la rue avec d'autres petits. Il s'amusait à exciter un brave chien débonnaire qui sommeillait, le museau allongé entre les pattes. Il entr'ouvrait un œil rouge et poussait à la fin un grognement ennuyé. Alors il se dispersait en piaillant d'effroi et de bonheur. La fillette poussait des cris perçants et regardait derrière elle comme si elle était poursuivie. Elle allait se jeter dans les jambes de Louisa qui riait affectueusement. Louisa retenait l'enfant, elle la questionnait. Et l'entretien s'engageait avec Sabine. Christophe n'y prenait point part. Il ne parlait pas à Sabine. Sabine ne lui parlait pas. Par une convention tacite, il feignait de s'ignorer. Mais il ne perdait pas un mot des propos échangés par-dessus sa tête. Son silence paraissait hostile à Louisa. Sabine ne le jugeait pas ainsi. Mais il l'intimidait, et elle se troublait un peu dans ses réponses. Alors elle trouvait une raison pour rentrer. Pendant toute une semaine, Louisa enrhumée garda la chambre. Christophe et Sabine se trouvèrent seuls. La première fois, ils en furent effrayés. Sabine, pour se donner une contenance, tenait la petite sur ses genoux et la mangeait de baisers. Christophe, gêné, ne savait plus s'il devait continuer d'ignorer ce qui se passait auprès de lui. Cela devenait difficile. Bien qu'ils ne se fussent pas encore adressés la parole, la connaissance était faite grâce à Louisa. Il essaya de sortir une ou deux phrases de sa gorge, mais les sons s'arrêtaient en route. La fillette, une fois de plus, les tira d'embarras. En jouant à cache-cache, elle tournait autour de la chaise de Christophe, qui l'attrapa au passage et l'embrassa. Il n'aimait pas beaucoup les enfants, mais il éprouvait une douceur singulière à embrasser celle-ci. La petite se débattait, tout occupée de son jeu. Christophe la taquina, elle lui mordit les mains. Il la laissa glisser à terre. Sabine riait. Ils échangèrent, en la regardant, des mots insignifiants. Puis Christophe essaya, il s'y crut obligé, de lier conversation, mais il n'avait pas grande ressource de parole, et Sabine ne lui facilitait pas la tâche. Elle se contentait de répéter ce qu'il venait de dire. Il faisait bon ce soir. Oui, ce soir était excellent. On ne respirait pas dans la cour. Oui, la cour était étouffante. L'entretien devenait pénible. Sabine profita de ce qu'il était l'heure de faire rentrer la petite pour rentrer avec elle, et elle ne se montra plus. Christophe craignit qu'elle ne fît de même les soirs suivants, et qu'elle évitât de se trouver avec lui tant que Louisa ne serait pas là. Mais ce fut tout le contraire, et le lendemain, Sabine essaya de reprendre l'entretien. Elle le faisait par volonté plutôt que par plaisir. On sentait qu'elle se donnait beaucoup de mal pour trouver des sujets de conversation et qu'elle s'ennuyait elle-même des questions qu'elle posait. Demandes et réponses tombaient au milieu de silences navrants. Christophe se rappelait les premiers tête-à-tête avec Otto. Mais avec Sabine, les sujets étaient plus restreints encore, et elle n'avait pas la patience d'Otto. Quand elle vit le peu de succès de ses tentatives, elle n'insista pas. Il fallait se donner trop de mal, cela ne l'intéressait plus. Elle se tut, et il l'imita. Aussitôt, tout redevint très doux. La nuit reprit son calme, et le cœur ses pensées. Sabine se balançait lentement sur sa chaise en rêvant. Christophe rêvait à ses côtés. Il ne se disait rien. Au bout d'une demi-heure, Christophe, se parlant à lui-même, s'extasia à mi-voix sur les effluves grisants apportés par le vent tiède qui venait de passer sur une charrette de fraises. Sabine répondit deux ou trois mots. Ils se turent de nouveau. Ils savouraient le charme de ces silences indéfinis, de ces mots indifférents. Ils subissaient le même rêve. Ils étaient pleins d'une seule pensée. Ils ne savaient point laquelle, ils ne se l'avouaient pas à eux-mêmes. Quand 11 heures sonnèrent, ils se quittèrent souriant. Le jour d'après, ils ne tentèrent même plus de renouer conversation. Ils reprirent leur cher silence. De loin en loin, quelques monosyllabes leur servaient à reconnaître qu'ils pensaient aux mêmes choses. Sabine se mit à rire. « Comme c'est mieux, dit-elle, de ne pas se forcer à parler. On s'y croit d'obliger et c'est si ennuyeux. » « Ah !» fit Christophe d'un ton pénétré, « si tout le monde était de votre avis. » Ils rirent tous deux, ils pensaient à Madame Fogel. « La pauvre femme, dit Sabine, comme elle est fatigante. »« Elle ne se fatigue jamais, reprit Christophe, d'un air navré. » Sabine s'égaya de son air et de son mot. « Vous trouvez cela plaisant, dit-il ? Cela vous est bien aisé, à vous, vous êtes à l'abri. »« Je crois bien, dit Sabine, je m'enferme à clé chez moi. » Elle avait un petit rire doux, presque silencieux. Christophe l'écoutait, ravi, dans le calme de la nuit. Il aspira l'air frais avec délice. « Ah, que c'est bon de se taire !» fit-il en s'étirant. « Et que c'est inutile de parler, » dit-elle. « Oui, dit Christophe, on se comprend si bien. » Ils retombèrent dans leur silence. La nuit les empêchait de se voir. Ils souriaient tous deux. Pourtant, s'ils sentaient de même, quand ils étaient ensemble, ou s'ils se l'imaginaient, ils ne savaient rien l'un de l'autre. Sabine ne s'en inquiétait aucunement. Christophe était plus curieux. Un soir, il lui demanda « Aimez-vous la musique ?»« Non, dit-elle simplement, elle m'ennuie. Je n'y comprends rien du tout. » Cette franchise le charma. Il était excédé par les mensonges des gens qui se disaient fous de musique et qui mouraient d'ennui quand ils en entendaient. Ce lui semblait presque une vertu de ne pas l'aimer et de le dire. Il s'informa si Sabine lisait. Non, d'abord, elle n'avait pas de livres. Il lui offrit les siens. « Des livres sérieux ?» demanda-t-elle, inquiète. « Pas de livres sérieux, si elle ne voulait pas. Des poésies. »« Mais ce sont des livres sérieux. Des romans, alors. » Elle fit la moue. Cela ne l'intéressait pas ? Si, cela l'intéressait, mais c'était toujours trop long. Jamais elle n'avait la patience d'aller jusqu'au bout. Elle oubliait le commencement, elle sautait les chapitres, et elle ne comprenait plus rien. Alors elle jetait le livre. Belle preuve d'intérêt. Bah, c'était assez pour une histoire pas vraie. Elle réservait son intérêt pour toute autre chose que pour des livres. Pour le théâtre, peut-être. Ah, bien non. Est-ce qu'elle n'y allait pas? Non, il faisait trop chaud, il y avait trop de monde. On est bien mieux chez soi. Les lumières font mal aux yeux, et les acteurs sont si laids. Là-dessus, il était d'accord avec elle. Mais il y avait encore autre chose au théâtre. Les pièces. Oui, fit-elle distraitement, mais je n'ai pas le temps. Que pouvez-vous faire du matin jusqu'au soir? Elle souriait. Il y a tant à faire. C'est vrai, dit-il, vous avez votre magasin. Oh, fit-elle tranquillement, cela ne m'occupe pas beaucoup. C'est votre fillette alors qui vous prend tout votre temps. Oh non, la pauvre petite, elle est bien sage, elle s'amuse toute seule. Alors? Il s'excusa de son indiscrétion. Mais elle s'en amusait. Il y avait tant, tant de choses. Quelles? Elle ne pouvait pas dire. Il y en avait de toutes sortes. Quand ce ne serait que de se lever, faire sa toilette, penser au dîner, faire le dîner, manger le dîner, penser au souper, ranger un peu sa chambre. La journée était déjà finie. Et il fallait bien pourtant avoir aussi un peu de temps pour ne rien faire. Et vous ne vous ennuyez pas? Jamais. Même quand vous ne faites rien? Surtout quand je ne fais rien. C'est bien plutôt de faire quelque chose qui m'ennuie. Ils se regardèrent en riant. « Que vous êtes heureuse, dit Christophe. Moi, je ne sais pas ne rien faire. Il me semble que vous savez très bien. J'apprends depuis quelques jours. Eh bien, vous arriverez. » Il avait le cœur paisible et reposé quand il venait de causer avec elle. Il lui suffisait de la voir, il se détendait de ses inquiétudes, de ses irritations, de cette angoisse nerveuse qui lui contractait le cœur. Nul trouble quand il lui parlait. Nul trouble quand il songeait à elle. Il n'osait se l'avouer, mais dès qu'il était près d'elle, il se sentait pénétré par une torpeur délicieuse. Il s'assoupissait presque. Les nuits, il dormait comme il n'avait jamais dormi. En revenant de son travail, il jetait un coup d'œil dans l'intérieur de la boutique. Il était rare qu'il ne vît pas Sabine. Il se saluait en souriant. Parfois, elle était sur le seuil, et ils échangeaient quelques mots. Ou bien il entr'ouvrait la porte, il appelait la petite, et lui glissait dans la main un cornet de bonbons. Un jour, il se décida à entrer. Il prétendit avoir besoin de boutons pour son veston. Elle se mit à en chercher, mais elle ne les trouva pas. Tous les boutons étaient mêlés, impossible de s'y reconnaître. Elle était un peu ennuyée qu'il vît ce désordre. Lui s'en divertissait et se penchait curieusement pour mieux voir. « Non, fit-elle en tâchant de cacher le tiroir avec ses mains. Ne regardez pas, c'est un fouillis. » Elle se remit à chercher, mais Christophe la gênait. Elle se dépita, et repoussant le tiroir, « Je ne trouve pas, dit-elle. Allez donc chez Lizzie, dans la rue à côté. Elle en a sûrement. Elle a tout ce qu'on veut. » Il rit de cette façon de faire des affaires. « Est-ce que vous lui envoyez ainsi tous vos clients ?»« Ce n'est pas la première fois, répondit-elle gaiement. » Elle avait pourtant un peu honte. « C'est trop ennuyeux de ranger, reprit-elle. Je remets de jour en jour pour le faire, mais je le ferai sûrement demain. »« Voulez-vous que je vous aide ?» dit Christophe. Elle refusa. Elle eût bien voulu accepter, mais elle n'osait pas à cause des commérages. Et puis cela l'humiliait. Ils continuèrent à causer. « Et vos boutons ? » dit-elle à Christophe, après un moment. « Vous n'allez pas chez Lizzie ?»« Jamais de la vie, » dit Christophe. « J'attendrai que vous ayez rangé. »« Oh ! » dit Sabine, qui avait déjà oublié ce qu'elle venait de dire, « n'attendez pas si longtemps. » Ce cri du cœur les mit en joie. Christophe s'approcha du tiroir qu'elle avait repoussé. « Laissez-moi chercher, voulez-vous ? » Elle courut à lui pour l'empêcher. « Non, non, je vous en prie, je suis sûr que je n'ai pas. Je parie que vous l'avez. » Du premier coup, il ramena, triomphant, le bouton qu'il voulait. Il lui en fallait d'autres. Il voulut continuer de fouiller, mais elle lui arracha la boîte des mains et se piquant d'amour-propre, elle-même, elle chercha. Le jour baissait, elle s'approcha de la fenêtre. Christophe s'assit à quelques pas, la fillette grimpa sur ses genoux. Il feignait d'écouter son verbiage et y répondait distraitement. Il regardait Sabine qui se savait regarder. Elle se penchait sur la boîte. Il apercevait sa nuque et un peu de sa joue. Et tandis qu'il la regardait, il vit qu'elle rougissait. Et il rougit aussi. L'enfant parlait toujours. Personne ne lui répondait. Sabine ne bougeait plus. Christophe ne voyait pas ce qu'elle faisait. Il était sûr qu'elle ne faisait rien. Elle ne regardait même pas la boîte qu'elle tenait. Le silence se prolongeait. La petite fille, inquiète, se laissa glisser des genoux de Christophe. « Pourquoi vous ne dites plus rien ?» Sabine se retourna brusquement et la serra dans ses bras. La boîte se répandit par terre. La petite poussa des cris de joie. Elle courut à quatre pattes à la poursuite des boutons qui roulaient sous les meubles. Sabine revint près de la fenêtre et appuya son visage contre les carreaux. Elle semblait s'absorber dans la vue du dehors. « Adieu !» dit Christophe, troublé. Elle ne bougea point la tête et dit tout bas « Adieu !» L'après-midi, le dimanche, la maison restait vide. Toute la famille se rendait à l'église et entendait les vêpres. Christophe, en plaisantant, lui en fit des reproches. Une fois qu'il l'aperçut assise devant sa porte, dans le petit jardin, tandis que les belles cloches s'égosillaient à l'appeler. Elle répondit sur le même ton que la messe seule était obligatoire. Les vêpres ne l'étaient pas. Il était donc inutile et même un peu indiscret de faire excès de zèle. Et elle aimait à penser qu'au lieu de lui en vouloir, Dieu lui en saurait gré. « Vous faites Dieu à votre image, » dit Christophe. « Cela m'ennuierait tant à sa place, » fit-elle d'un ton convaincu. « Vous ne vous occuperiez pas souvent du monde si vous étiez à sa place. Tout ce que je lui demanderais, c'est qu'il ne s'occupe pas de moi. « Cela n'en irait peut-être pas plus mal, » dit Christophe. « Chut !» s'écria Sabine, « nous disons des impiétés. « Je ne vois pas l'impiété qu'il y a à dire que Dieu vous ressemble. Je suis sûr qu'il est flatté. « Voulez-vous vous taire ?» dit Sabine, moitié riant, moitié fâchée. Elle commençait à craindre que Dieu ne se scandalisât. Elle se hâta de détourner la conversation. « Et puis, dit-elle, c'est le seul moment de la semaine où l'on peut jouir en paix du jardin. »« Oui, dit Christophe, ils ne sont pas là. » Ils se regardèrent. « Quel silence !» fit Sabine. « On n'est pas habitué. On ne sait plus où on est. »« Oh !» cria brusquement Christophe avec colère. « Il y a des jours où j'ai envie de l'étrangler. » Il n'était pas besoin d'expliquer de qui il voulait parler. « Et les autres ?» demanda Sabine gaiement. « C'est vrai, dit Christophe découragé. Il y a Rosa. »« Pauvre petite, dit Sabine. » Ils se turent. « Si c'était toujours comme c'est maintenant, soupira Christophe. » Elle leva vers lui ses yeux riants, puis les baissa de nouveau. Il s'aperçut qu'elle travaillait. « Que faites-vous là ? » demanda-t-il. Il était séparé d'elle par le rideau de lierre tendu entre les deux jardins. « Vous voyez bien, dit-elle, en levant une écuelle qu'elle tenait sur ses genoux. « J'écosse des petits pois. » Elle poussa un gros soupir. « Mais ce n'est pas désagréable, dit-il en riant. « Oh, répondit-elle, c'est mourant d'avoir à s'occuper toujours de son dîner. « Je parie, dit-il, que si c'était possible, vous vous passeriez de dîner plutôt que d'avoir l'ennui de le préparer. « Bien sûr, s'écria-t-elle. « Attendez, je vais vous aider. » Il enjamba la clôture et vint près d'elle. Elle était assise sur une chaise à l'entrée de sa maison. Il s'assit sur une marche à ses pieds. Dans les plis de sa robe, ramassée sur son ventre, il puisait des poignées de gousses vertes, et il versait les petites balles rondes dans lesquelles posées entre les genoux de Sabine. Il regardait à terre. Il voyait les bas noirs de Sabine qui moulaient ses chevilles et ses pieds. Il n'osait lever les yeux vers elle. L'air était lourd. Le ciel très blanc, très bas, sans un souffle. Aucune feuille ne bougeait. Le jardin était clos de grands murs, le monde finissait là. L'enfant était sorti avec une voisine. Ils étaient seuls. Ils ne disaient rien. Ils ne pouvaient plus rien dire. Sans voir, il prenait sur les genoux de Sabine d'autres poignées de petits pois. Ses doigts tremblaient en la touchant. Ils rencontrèrent, au milieu des gousses fraîches et lisses, les doigts de Sabine qui tremblaient. Ils ne purent plus continuer. Ils restèrent immobiles, ne se regardant pas. Elle, renversée sur sa chaise, la bouche entrouverte, les bras pendants. Lui, assis à ses pieds, adossé contre elle. Il sentait le long de son épaule et de son bras la tiédeur de la jambe de Sabine. Ils étaient haletants. Christophe appuyait ses mains contre la pierre pour les rafraîchir. Une de ses mains frôla le pied de Sabine sorti de son soulier et resta posée sur lui, ne put se détacher. Un frisson les parcourut. Ils étaient près du vertige. La main de Christophe serrait les doigts menus du petit pied de Sabine. Sabine, moite et glacée, se penchait vers Christophe. Des voix connues les arrachèrent à cette ivresse. Ils tressaillirent. Christophe se releva d'un bond et repassa la barrière. Sabine ramassa les épluchures dans sa robe et regagna la maison. De la cour, il se retourna. Elle était sur le seuil. Ils se regardèrent. Des gouttelettes de pluie commençaient à faire sonner les feuilles des arbres. Elle referma sa porte. Madame Fogel et Rosa rentraient. Il remonta chez lui. Comme le jour jaunâtre s'éteignait, noyé dans des torrents de pluie, il se leva de sa table, mu par une impulsion irrésistible. Il courut à sa fenêtre fermée, et il tendit les bras vers la fenêtre d'en face. Au même moment, à la fenêtre d'en face, derrière les vitres closes, dans la demi-ombre de la chambre, il vit, il crut voir, Sabine qui lui tendait les bras. Il se précipita hors de chez lui. Il descendit l'escalier. Il courut à la barrière du jardin. Au risque d'être vu, il allait la franchir. Mais comme il regardait la fenêtre où elle lui était apparue, il vit que tous les volets étaient fermés. La maison semblait dormir. Il hésita à continuer. Le vieux Euler, qui allait à sa cave, l'aperçut et l'appela. Il revint sur ses pas. Il crut avoir rêvé. Rosa ne fut pas longtemps sans s'apercevoir de ce qui se passait. Elle était sans défiance, elle ne savait pas encore ce que c'était qu'un sentiment jaloux. Elle était prête à tout donner, et ne demandait rien en échange. Mais si elle se résignait mélancoliquement à ce que Christophe ne l'aimât point, elle n'avait jamais envisagé la possibilité que Christophe aimât une autre. Un soir, après dîner, elle venait de terminer une ennuyeuse tapisserie à laquelle elle travaillait depuis des mois. Elle se sentit heureuse, et elle eut envie de s'émanciper un peu, pour une fois, d'aller causer avec Christophe. Elle profita de ce que sa mère avait le dos tourné pour s'esquiver de la chambre. Elle se glissa hors de la maison, comme un écolier en faute. Elle se réjouissait de confondre Christophe, qui avait affirmé dédaigneusement qu'elle ne finirait jamais son travail. La pauvre petite avait beau connaître les sentiments de Christophe à son égard, elle était toujours disposée à juger du plaisir que les autres devaient avoir à la rencontrer, d'après celui qu'elle éprouvait en les voyant. Elle sortit. Devant la maison, Christophe et Sabine étaient assis. Le cœur de Rosa se serra. Pourtant, elle ne s'arrêta pas à cette impression irraisonnée, et gaiement, elle interpella Christophe. Le bruit de sa voix aiguë, dans le silence de la nuit, produisit sur Christophe l'effet d'une fausse note. Il tressaillit sur sa chaise et grimaça de colère. Rosa lui agitait triomphalement sa tapisserie sous le nez. Christophe la repoussa avec impatience. « Elle est finie, finie !» insistait Rosa. « Eh bien, allez en commencer une autre !» dit sèchement Christophe. Rosa fut consternée. Toute sa joie était tombée. Christophe continua méchamment. « Et quand vous en aurez fait 30, quand vous serez bien vieille, vous pourrez au moins dire que vous n'avez pas perdu votre vie. » Rosa avait envie de pleurer. « Mon Dieu, comme vous êtes méchant, Christophe » dit-elle. Christophe eut honte et lui dit quelques mots d'amitié. Elle se contentait de si peu qu'elle retrouva aussitôt sa confiance, et elle repartit de plus belle dans son bruyant bavardage. Elle ne pouvait parler bas, elle criait à tue-tête, suivant l'habitude de la maison. Malgré tous ses efforts, Christophe ne put cacher sa mauvaise humeur. Il répondit d'abord quelques monosyllabes irrités, puis il ne répondit rien. Il tourna le dos et s'agitait sur sa chaise en grinçant des dents à ses notes de crécel. Rosa voyait qu'elle l'impatientait, elle savait qu'elle devait se taire, mais elle n'en continuait que plus fort. Sabine, silencieuse, dans l'ombre à quelques pas, assistait à la scène avec une impassibilité ironique. Puis, lassée et sentant que la soirée était perdue, elle se leva et rentra. Christophe ne s'aperçut de son départ que quand elle n'était plus là. Il se leva aussitôt, et sans même s'excuser, il disparut de son côté avec un sec bonsoir. Rosa, restée seule dans la rue, regardait, atterrée, la porte par où il venait de rentrer. Les larmes la gagnaient. Elle revint précipitamment, remonta chez elle sans faire de bruit, pour ne pas avoir à parler à sa mère, se déshabilla en toute hâte, et une fois dans son lit, enfoncée sous ses draps, elle sanglota. Elle ne cherchait pas à réfléchir sur ce qui s'était passé. Elle ne se demandait pas si Christophe aimait Sabine, si Christophe et Sabine ne pouvaient pas la souffrir. Elle savait que tout était perdu, que la vie n'avait plus de sens, qu'il ne lui restait qu'à mourir. Le lendemain matin, la réflexion lui revint avec l'éternel et décevant espoir. En repassant les événements de la veille, elle se persuada qu'elle avait tort de leur attribuer cette importance. Sans doute, Christophe ne l'aimait pas. Elle s'y résignait, gardant au fond de son cœur la pensée inavouée qu'elle finirait par se faire aimer à force de l'aimer. Mais où avait-elle pris qu'il y eût quelque chose entre Sabine et lui? Comment aurait-il pu aimer, intelligent comme il était, une petite personne dont l'insignifiance et la médiocrité frappaient les yeux de tous? Elle se sentit rassurée, et n'en commença pas moins à surveiller Christophe. Elle ne vit rien de tout le jour, puisqu'il n'y avait rien à voir. Mais Christophe, qui la vit en revanche rôder tout le jour autour de lui, sans s'expliquer pourquoi, en conçut une irritation singulière. Elle y mit le comble, le soir, quand elle reparut, et s'installa décidément à côté d'eux dans la rue. Ce fut une réédition de la scène de la veille. Rosa seule parla, mais Sabine n'attendit pas aussi longtemps pour retourner chez elle. Et Christophe l'imita. Rosa ne pouvait plus se dissimuler que sa présence était importune. Mais la malheureuse fille tâchait de se duper. Elle ne voyait pas qu'elle ne pouvait rien faire de pis que de chercher à s'imposer. Et, avec sa maladresse habituelle, elle continua les jours suivants. Le lendemain, Christophe, flanqué de Rosa, attendit vainement que Sabine parût. Le surlendemain, Rosa se trouva seule. Ils avaient renoncé à lutter. Mais elle n'y gagna rien, que la rancune de Christophe, furieux d'être privé de ses chères soirées, son unique bonheur. Il lui pardonnait d'autant moins qu'absorbé par ses propres sentiments, il ne se fut jamais avisé de deviner ceux de Rosa. Il y avait beau temps que Sabine les connaissait. Elle savait que Rosa était jalouse, avant même de savoir si elle-même était amoureuse. Mais elle n'en disait rien. Et, avec la cruauté naturelle de toute jolie femme, qui se sait sûre de la victoire, elle assistait, silencieuse et narquoise, aux efforts inutiles de sa maladroite rivale. Rosa, restée maîtresse du champ de bataille, contemplait piteusement le résultat de sa tactique. Le mieux était pour elle de ne pas s'obstiner et de laisser en paix Christophe, au moins pour le moment. Ce fut donc ce qu'elle ne fit pas. Et comme le pis qu'elle put faire, c'était de lui parler de Sabine, ce fut justement ce qu'elle fit. Le cœur battant, elle lui dit timidement, pour connaître sa pensée, que Sabine était jolie. Christophe répliqua sèchement qu'elle était très jolie. Et bien que Rosa eût prévu la réponse qu'elle s'attirait, elle en reçut un coup au cœur. Elle savait bien que Sabine était jolie, mais jamais elle n'y avait pris garde. Elle la voyait pour la première fois par les yeux de Christophe. Elle voyait ses traits fins, son petit nez, sa bouche menue, son corps mignon, ses mouvements gracieux. Ah, quelle douleur! Que n'eût-elle pas donné pour être dans ce corps? Elle ne s'expliquait que trop qu'on le préféra au sien. Le sien! Qu'avait-elle fait pour l'avoir? Qu'il lui pesait, qu'il lui paraissait laid. Il lui était odieux, et pensait qu'il n'y avait que la mort qui l'en délivrerait. Elle était trop fière et trop humble à la fois pour se plaindre de n'être pas aimée. Elle n'y avait aucun droit, et elle cherchait à s'humilier encore davantage. Mais son instinct se révoltait. Non, ce n'était pas juste. Pourquoi ce corps à elle et non à Sabine? Et pourquoi aimait-on Sabine? Qu'avait-elle fait pour l'être? Rosa la voyait sans indulgence, paresseuse, négligente, égoïste, indifférente à tous, ne s'occupant ni de sa maison, ni de son enfant, ni de qui que ce fût, n'aimant qu'elle, ne vivant que pour dormir, flâner et ne rien faire. Et c'était cela qui plaisait à Christophe qui était si sévère, à Christophe qu'elle estimait et qu'elle admirait par-dessus tout. Ah, c'était trop injuste. C'était trop bête aussi. Comment Christophe ne le voyait-il pas? Elle ne pouvait s'empêcher de lui glisser de temps en temps une remarque désobligeante pour Sabine. Elle ne le voulait pas, mais c'était plus fort qu'elle. Toujours elle regrettait, parce qu'elle était bonne et n'aimait à dire du mal de personne. Mais elle le regrettait encore plus, parce qu'elle s'attirait ainsi de cruelles réponses qui lui montraient combien Christophe était épris. Blessé dans son affection, il cherchait à blesser, il y réussissait. Rosa ne répliquait pas et s'en allait, tête basse, serrant les lèvres pour ne pas pleurer. Elle pensait que c'était sa faute à elle, qu'elle n'avait que ce qu'elle méritait, pour avoir fait de la peine à Christophe en attaquant ce qu'il aimait. Sa mère fut moins patiente. Madame Fogel, qui voyait tout, n'avait pas tardé à remarquer, ainsi que le vieux Euler, les entretiens de Christophe avec sa jeune voisine. Il n'était pas difficile de deviner le roman. Les projets qu'ils avaient formés en secret de marier quelques jours Rosa avec Christophe en étaient contrariés, et cela leur semblait de la part de Christophe une offense personnelle, bien qu'il ne fût pas tenu de savoir qu'on avait disposé de lui sans l'avoir consulté. Mais le despotisme d'Amalia n'admettait pas qu'on pensât autrement qu'elle, et il lui paraissait scandaleux que Christophe eût passé outre à l'opinion méprisante qu'elle avait maintes fois exprimée sur Sabine. Elle ne se gêna point pour la lui répéter. Chaque fois qu'il était là, elle trouvait un prétexte pour parler de la voisine. Elle cherchait les choses les plus blessantes à dire, celles qui pouvaient être le plus sensibles à Christophe. Avec sa crudité de vue et de langage, elle n'avait pas de peine à les trouver. L'instinct féroce de la femme, si supérieur à celui de l'homme dans l'art de faire du mal, comme de faire du bien, la faisait insister moins sur la paresse de Sabine et ses défauts moraux que sur sa malpropreté. Son œil indiscret et furteur en avait été chercher des preuves à travers les carreaux jusqu'au fond de la maison dans les secrets de toilette de Sabine, et elle les étalait avec une complaisance grossière. Quand elle ne pouvait tout dire, par décence, elle laissait entendre davantage. Christophe pâlissait de honte et de colère. Il devenait blanc comme un linge, et ses lèvres tremblaient. Rosa, qui prévoyait ce qui allait se passer, suppliait sa mère de finir. Elle tâchait même de défendre Sabine. Mais elle ne faisait que rendre Amalia plus agressive. Et brusquement, Christophe bondissait de sa chaise. Il tapait sur la table et criait que c'était une indignité de parler ainsi d'une femme, de l'épier chez elle, d'étaler ses misères. Il fallait être bien méchant pour s'acharner contre un être bon, charmant, paisible, qui vivait à l'écart, qui ne faisait de mal à personne, qui ne disait de mal de personne. Mais on se trompait fort si on croyait lui faire tort ainsi. On ne faisait que la rendre plus sympathique et faire ressortir sa bonté. Amalia sentait qu'elle était allée trop loin, mais elle était blessée de la leçon, et portant la dispute sur un autre terrain, elle disait qu'il était trop facile de parler de bonté. Avec ce mot, on excusait tout. Parbleu, il était bien commode de passer pour bon, en ne s'occupant jamais de rien, ni de personne, en ne faisant pas son devoir. À quoi Christophe ripostait que le premier devoir était de rendre la vie aimable aux autres, mais qu'il y avait des gens pour qui le devoir était uniquement ce qui est laid, ce qui est maussade, ce qui ennuie, ce qui gêne la liberté des autres, ce qui vexe, ce qui blesse le voisin, les domestiques, sa famille et soi-même. Dieu nous garde de ces gens et de ce devoir comme de la peste. La dispute s'envenimait. Amalia devenait fort aigre. Christophe ne lui cédait à rien. Et le résultat le plus clair, c'était que désormais, Christophe affectait de se montrer constamment avec Sabine. Il allait frapper à sa porte, il causait joyeusement et riait avec elle. Il choisissait pour cela les moments où Amalia et Rosa pouvaient le voir. Amalia se vengeait par des paroles rageuses. Mais l'innocente Rosa avait le cœur déchiré par ce raffinement de cruauté. Elle sentait qu'il les détestait, qu'il voulait se venger, et elle pleurait amèrement. Ainsi Christophe, qui avait tant de fois souffert de l'injustice, apprit à faire souffrir injustement. À quelque temps de là, le frère de Sabine, meunier à Landeck, un petit bourg à quelques lieues de la ville, célébra le baptême d'un garçon. Sabine était marraine. Elle fit inviter Christophe. Il n'aimait pas ces fêtes, mais pour la satisfaction d'ennuyer les Fogel et d'être avec Sabine, il accepta avec empressement. Sabine se donna le malin plaisir d'inviter aussi Amalia et Rosa, sûre qu'elles refuseraient. Elles n'y manquèrent point. Rosa mourait d'envie d'accepter. Elle ne détestait pas Sabine, elle se sentait même parfois le cœur plein de tendresse pour elle, parce que Christophe l'aimait. Elle avait envie de le lui dire, de se jeter à son cou. Mais sa mère était là, et l'exemple de sa mère. Elle se raidit dans son orgueil et refusa. Puis, lorsqu'ils furent partis, et qu'elle pensa qu'ils étaient ensemble, qu'ils étaient heureux ensemble, qu'ils se promenaient en ce moment dans la campagne, par cette belle journée de juillet, tandis qu'elle restait enfermée dans sa chambre, avec une pile de linge à raccommoder, auprès de sa mère qui grondait, il lui sembla qu'elle étouffait. Et elle maudit son amour-propre. Ah, s'il avait été encore temps! S'il avait été encore temps, hélas, elle eût fait de même. Le meunier avait envoyé son char à banc chercher Christophe et Sabine. Ils prirent en passant quelques invités sur le chemin. Le temps était frais et sec. Le clair soleil faisait reluire les rouges grappes des cerisiers dans les champs. Sabine souriait. Sa figure palote était rosée par l'air vif. Christophe tenait sur ses genoux la petite fille. Il ne cherchait pas à se parler. Il parlait à leurs voisins, peu importait à qui et de quoi. Ils étaient contents d'entendre la voix l'un de l'autre. Ils étaient contents d'être emportés dans la même voiture. Ils échangeaient des regards de joie enfantine en se montrant une maison, un arbre, un passant. Sabine aimait la campagne, mais elle n'y allait presque jamais. Son incurable paresse lui interdisait toute promenade. Il y avait près d'un an qu'elle n'était pas sortie de la ville. Aussi jouissait-elle des moindres choses qu'elle voyait. Elle n'était point nouvelle pour Christophe, mais il aimait Sabine. Et comme tous ceux qui aiment, il voyait tout au travers d'elle. Il sentait chacun de ses tressaillements de plaisir, il exaltait encore les émotions qu'elle éprouvait, car en se confondant avec l'aimé, il lui prêtait son être. Arrivés au moulin, ils trouvèrent dans la cour les gens de la ferme et les autres invités, qui les reçurent avec un vacarme assourdissant. Les poules, les canards et les chiens faisaient chorus. Le meunier Berthold, un gaillard aux poils blonds, carré de la tête et des épaules, aussi gros et grand que Sabine était frêle, enleva sa petite sœur dans ses bras et la posa délicatement à terre, comme s'il avait peur de la casser. Christophe ne tarda pas à s'apercevoir que la petite sœur faisait, selon l'habitude, ce qu'elle voulait du colosse, et que tout en se moquant lourdement de ses caprices, de sa paresse et de ses mille et un défauts, il la servait à pied baisé. Elle y était habituée et le trouvait naturel. Elle trouvait tout naturel et ne s'étonnait de rien. Elle ne faisait rien pour être aimée. Il lui semblait tout simple qu'elle le fût, et si elle ne l'était point, elle n'en avait souci. C'est pourquoi chacun l'aimait. Christophe fit une autre découverte qui lui causa moins de plaisir. C'est qu'un baptême suppose non seulement une marraine, mais un parrain, et que celui-ci a sur celle-là des droits auxquels il se garde de renoncer quand la marraine est jeune et jolie. Il s'en avisa quand il vit un fermier, aux cheveux blonds frisottants, avec des anneaux dans les oreilles, s'approcher de Sabine en riant et l'embrasser sur les deux joues. Au lieu de se dire qu'il était un sot de l'avoir oublié, et un sot plus sot encore de s'en formaliser, il en voulut à Sabine, comme si elle avait fait exprès de la tirer dans ce guet-apens. Sa mauvaise humeur augmenta quand il se trouva séparé d'elle dans la suite de la cérémonie. De temps en temps, Sabine se retournait dans le cortège qui serpentait à travers les prairies, et elle lui jetait un regard amical. Il affectait de ne pas la voir. Elle sentait qu'il était fâché, elle devinait pourquoi, mais cela ne l'inquiétait guère. Elle s'en amusait. Aurait-elle eu une brouille avec quelqu'un qu'elle aimait, malgré la peine qu'elle en eût ressentie, elle n'eût jamais fait le moindre effort pour dissiper le malentendu. Il fallait se donner trop de mal. Tout finirait bien par s'arranger tout seul. À table, placée entre la meunière et une grosse fille aux joues rouges, qui l'avait escortée à la messe, sans daigner faire attention à elle, Christophe eut l'idée de regarder sa voisine. Et, l'ayant trouvée passable, il lui fit, pour se venger, une cour bruyante qui attira l'attention de Sabine. Il y réussit. Mais Sabine n'était pas femme à être jalouse de rien ni de personne. Pourvu qu'elle fût aimée, il lui était indifférent qu'on aimât d'autres, et au lieu de s'en piquer, elle fut ravie de voir que Christophe s'amusait. De l'autre bout de la table, elle lui adressa son plus charmant sourire. Christophe fut décontenancé. Il ne douta plus de l'indifférence de Sabine, et il retomba dans son mutisme boudeur, dont rien ne put le tirer, ni les agaceries, ni les rasades. À la fin, comme il s'assoupissait, se demandant rageusement ce qu'il était venu faire au milieu de cette interminable mangeaille, il n'entendit pas le fermier proposer une promenade en bateau pour reconduire à leur ferme certains des invités. Il ne vit pas Savine qui lui faisait signe de venir de son côté pour prendre la même barque. Quand il y pensa, il n'y avait plus de place pour lui, et il dut monter dans un autre bateau. Cette nouvelle déconvenue ne l'eût pas rendu plus aimable s'il n'avait bientôt découvert qu'il allait semer en route presque tous ses compagnons. Alors il se dérida et leur fit bon visage. D'ailleurs, cette belle après-midi sur l'eau, le plaisir de ramer, la gaieté de ces braves gens, finirent par dissiper toute sa mauvaise humeur. Sabine n'étant plus là, il ne se surveillait plus, et n'eut plus de scrupules à s'amuser franchement comme les autres. Ils étaient dans trois barques. Elles se suivaient de près, cherchant à se dépasser. Ils s'adressaient de l'une à l'autre des injures joyeuses. Quand les barques se frôlaient, Christophe voyait le regard souriant de Sabine, et il ne pouvait s'empêcher de lui sourire aussi. La paix était faite. C'est qu'il savait que tout à l'heure ils reviendraient ensemble. On se mit à chanter des chansons à quatre voix. Chaque groupe, à tour de rôle, disait un des couplets. Le refrain était repris en chœur. Les barques, espacées, se répondaient en écho. Les sons glissaient sur l'eau comme des oiseaux. De temps en temps, un bateau accostait à la rive. Un ou deux paysans descendaient. Ils restaient sur le bord et faisaient des signaux aux barques qui s'éloignaient. La petite troupe s'égrenait. Les voix se détachaient une à une du concert. À la fin, ils furent seuls, Christophe, Sabine et le meunier. Ils revinrent dans la même barque, redescendant le fil de l'eau. Christophe et Berthold tenaient les rames, mais ils ne ramaient pas. Sabine, assise à l'arrière, en face de Christophe, causait avec son frère et regardait Christophe. Ce dialogue leur permettait de se contempler en paix. Jamais ils n'eussent pu le faire si les paroles menteuses s'étaient tues. Les paroles semblaient dire « Ce n'est pas vous que je vois ». Mais les regards se disaient « Qui es-tu, toi que j'aime ? Toi que j'aime, qui que tu sois ?» Le ciel se couvrait, les brouillards s'élevaient des prairies, la rivière fumait, le soleil s'éteignait au milieu des vapeurs. Sabine s'enveloppa les épaules et la tête, en frissonnant, de son petit châle noir. Elle semblait fatiguée. Comme le bateau, longeant la rive, glissait sous les branches étendues des saules, elle ferma les yeux. Sa figure toute menue était blême. Ses lèvres avaient un pli douloureux. Elle ne bougeait plus, elle paraissait souffrir. Avoir souffert. Être morte. Christophe eut le cœur serré. Il se pencha vers elle. Elle rouvrit les yeux, elle vit les yeux inquiets de Christophe qui l'interrogeait, et elle leur sourit. Ce fut pour lui comme un rayon de soleil. Il demanda à mi-voix « Vous êtes malade ?» Elle lui fit signe que non et dit « J'ai froid. » Les deux hommes étendirent sur elle leur manteau. Ils enveloppèrent ses pieds, ses jambes et ses genoux comme un enfant qu'on borde dans son lit. Elle se laissait faire et les remerciait du regard. Une pluie fine et glacée commençait à tomber. Ils reprirent les rames et se hâtèrent de revenir. De lourdes nuées éteignaient le ciel. La rivière roulait des flots d'encre. Les lumières s'allumaient aux fenêtres des maisons, de-ci, de-là, dans les champs. Quand ils arrivèrent au moulin, la pluie tombait à flots et Sabine était transie. On alluma un grand feu dans la cuisine et on attendit que l'averse fût passée. Mais elle ne fit que redoubler et le vent se mit de la partie. Ils avaient 3 lieues à faire en voiture pour revenir à la ville. Le meunier déclara qu'il ne laisserait pas partir Sabine par un temps pareil. Il leur proposa à tous deux de passer la nuit à la ferme. Christophe hésitait à accepter. Il chercha conseil dans les yeux de Sabine. Mais les yeux de Sabine fixaient obstinément les flammes du foyer. On eût dit qu'il craignait d'influer sur la décision de Christophe. Mais quand Christophe eut dit oui, elle tourna vers lui sa figure rougissante, était-ce du reflet du feu, et il vit qu'elle était contente. Chère soirée, la pluie faisait rage au dehors. Le feu lançait dans la noire cheminée des essaims d'étincelles dorées. Il faisait cercle autour. Leurs silhouettes fantasques s'agitaient sur le mur. Le meunier montrait à la fillette de Sabine comment on fait des ombres avec la main. L'enfant riait et n'était pas tout à fait rassuré. Sabine, penchée sur le feu, l'attisait machinalement avec une lourde pincette. Elle était un peu lasse et rêvassait en souriant, tandis que sans écouter, elle hochait la tête au bavardage de sa belle-sœur, qui lui contait ses affaires domestiques. Christophe, assis dans l'ombre, à côté du meunier, tirait doucement les cheveux de l'enfant et regardait le sourire de Sabine. Elle savait qu'il la regardait. Il savait qu'elle lui souriait. Ils n'eurent pas occasion de se parler une seule fois de la soirée, ni de se regarder en face. Ils ne le cherchaient point.